Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Nous arrivons, frères et sœurs de notre radio présence, nous arrivons à une sorte de joyau qui est juste à la charnière entre la fin du premier livre de Samuel et le début du second livre de Samuel, au moment du second récit de la mort de Saül et de Jonathan. Et David, très touché par cette mort, même s'il s'agit d'un roi qui le combattait, mais en lien avec son fils qui l'aimait, Jonathan, qui l'aimait et qu'il aimait, et donc va chanter cette élégie qu'on intitule d'habitude le chant de l'arc. Tout le monde s'accorde à reconnaître dans cette élégie, donc c'est au premier chapitre du deuxième livre de Samuel, une pièce authentique n'ayant pu sortir que du cœur de David tel qu'il se révèle dans sa vie entière. Un souffle épique traverse cette ode funèbre, véhémence, indignation, étonnement, douleur la parcourt. Mais on y trouve aussi la beauté des images, la délicatesse et la tendresse des sentiments. Et ces deux registres simultanés signent le chant de David qui est à la fois le guerrier et l'ami. Et comme dit un commentateur à propos de cet épisode, bien que le nom du Seigneur, le nom de Dieu ne soit pas prononcé, et certains voient même en cette absence la preuve de l'ancienneté et de l'authenticité de l'élégie, on sent que tout jaillit d'une âme pénétrée d'une religion profonde. Les cris d'étonnement, de douleur, d'admiration, les prosopopées, prenant les choses pour des personnes, les adjurations aux êtres même inanimés, les images guerrières ou gracieuses, les larmes qui inondent un mâle visage, trahissent une émotion dont le lecteur ne peut non plus se défendre. La complainte porte un titre venu du verset 22 de ce chapitre premier du second livre de Samuel. On l'appelle le chant de l'arc, et s'il faut en croire le verset 18, on l'utilisait pour apprendre l'arc aux enfants de Juda. Et le rédacteur ajoute que le poème est écrit au livre du Juste, auquel renvoie aussi le livre de Josué, et bien que ce livre soit perdu pour nous. Ce serait plutôt, éventuellement, le livre du chant dont il faudrait parler, cité par la Septante, par la traduction des 70 traducteurs, entre un certain nombre de chapitres 8e du premier livre des rois. Moi, je passe sur ce détail un peu technique. En tout cas, le chant funèbre comporte 6 strophes encadrées par une sorte de cri de stupeur revenant 3 fois « Comment sont tombés les héros ?» Dans les strophes, le rythme classique de la kina, ou la lamentation en hébreu, n'est pas régulièrement respecté, ce qui est un signe de plus de l'authenticité et de l'antiquité du chant. Ça commence ainsi. « La splendeur d'Israël sur tes hauteurs a-t-elle péri ? Comment sont tombés les héros ?» La première fois où ça apparaît, c'est là. Voilà les deux premiers vers. Et avant la première occurrence du refrain, une sorte de prélude donne le ton de la complainte. Il ne s'agit aucunement d'une amère évocation de la défaite qui mettrait en cause la responsabilité du roi et de ses armées. Aucun compte n'est réglé. Dès le premier mot, David prend de la hauteur par rapport au désastre. Il transfigure par sa foi et par son cœur la destinée des disparus, notamment de Saül. Il ne veut considérer que leur splendeur, leur beauté et leur gloire. Il s'agit évidemment de celle de Saül et de Jonathan, les héros célébrés ici qui étaient la fleur d'Israël. Ne le publiez pas dans Gath, une ville. Ne l'annoncez pas dans les rues d'Ashkelon, une autre ville. Que ne se réjouissent les filles des Philistins, qui étaient leurs vainqueurs, et que n'exultent pas les filles des incirconcis, encore les Philistins. Seulement, attentif à la gloire des héros, David, par une sorte de fiction poétique, ne veut pas que les Philistins sachent le drame, ni que les femmes soient en liesse, ainsi que l'était en Israël après ses victoires, les victoires de David. Quand, en effet, je rappelle le premier livre de Samuel, quand David revint d'avoir tué le Philistin, c'était Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül pour chanter en dansant au son des tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui dansaient chantaient, Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Et ces chants reviennent sans doute à la mémoire de David et lui font mal. De ses ruisses que ne se réjouissent les filles des Philistins, que d'exultent les filles des incirconcis. Et le chant de l'arc poursuit, montagne de gel boé, ni rose, ni rosée, ni pluie sur vous, campagne traîtresse, puisqu'il fut déshonoré le bouclier des héros. David prend à partie les montagnes du nord-est d'Israël, où a eu lieu la mort du premier Messie, du premier roi qui a reçu l'onction, en les vouant à la sécheresse et à la stérilité. Montagne de Gelboé, que ni rosée ni pluie ne descendent sur vous. Une telle personnification pour une exécration ne manque pas de grandeur. Quand mourra au calvaire le Messie véritable et définitif de Christ Jésus, la victoire de sa résurrection transfigurera l'instrument de son supplice, à tel point que des hymnes comme le Vexilla Regis, bien loin de le maudire, célébreront le bois de la croix. Et la très belle antienne grégorienne qui chante en condensé la complainte commence par cette strophe précisément, la Montes Gelboé, les monts de Gelboé. Il nous restera à poursuivre la lecture et le commentaire de ce chant de l'arc et nous y retrouverons pour cela. Belle journée à vous.